Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. C'est l'autre grand chantier social de ce début de quinquennat, après la réforme du droit du travail, celle de la formation professionnelle. Depuis la mi-novembre, les partenaires sociaux disposent d'une feuille de route fournie par le gouvernement pour revoir la façon dont le système fonctionne. La dernière réunion a eu lieu au MEDEF vendredi dernier, la prochaine est prévue demain. Le gouvernement entend légiférer au printemps. Alors si la nécessité d'une réforme se fait sentir, on peut supposer que c'est parce que le système actuel de formation ne donne pas entière satisfaction. Les reproches qui lui sont adressés sont les suivants: trop complexe, trop inégalitaire, pas assez pertinent. Il est vrai qu'il est difficile de s'y retrouver, aussi bien dans les démarches administratives à mener que dans la profusion de l'offre avant de pouvoir choisir correctement sa formation, laquelle n'est pas toujours à la hauteur des attentes. Ainsi, dans son rapport annuel en février dernier, la Cour des comptes pointait les nombreuses irrégularités du secteur, liées à la fois à des conditions d'entrée un peu trop souples pour les opérateurs et à des contrôles très insuffisants. Constat d'autant plus problématique que les sommes en jeu sont énormes. 32 milliards d'euros sont dépensés chaque année pour financer directement et indirectement la formation professionnelle. Alors à qui profite l'argent de la formation professionnelle ? C'est le sujet dont nous allons discuter ce soir en compagnie de quatre invités, à commencer par vous, Catherine Perret, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes syndicaliste, secrétaire confédérale de la CGT, c'est vous qui êtes en charge des négociations sur la formation professionnelle pour votre syndicat. Pour discuter avec vous, Mathilde Lemoine, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, enseignante à Sciences Po, membre du Haut Conseil des Finances Publiques et vous avez présidé, c'était en 2014, un rapport sur la formation professionnelle, un rapport publié par la Fondation Terra Nova. Notre troisième invité, Jean Vémard, bonsoir.
Bonsoir.
Président de la FFP, Fédération de la Formation Professionnelle, qui regroupe plus de 550 entreprises de formation. C'est une fédération qui est membre du MEDEF et de la CPME. Et vous présidez par ailleurs le groupe Demos, qui est un groupe qui s'occupe évidemment de formation. Puis notre quatrième invité, Christophe Marty, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste à l'AEF, Agence Éducation et Formation, qui est notamment une agence de presse spécialisée dans les questions d'emploi et de formation. Vous vous occupez justement de ces questions de formation professionnelle. Alors avec vous ce soir, je voudrais qu'on examine justement ce qu'est aujourd'hui la formation professionnelle en France, à la fois en termes d'accessibilité et de qualité de l'offre. Mais tout d'abord, je voudrais vous proposer un rapide premier tour de table pour savoir déjà s'il y a consensus sur la nécessité de réformer ce secteur. Catherine Perret.
Alors oui, bien sûr, parce que la formation actuellement ne répond pas à ces enjeux de faciliter l'accès de toutes et tous. La précédente réforme, elle avait pour but de donner accès à ceux qui ont le moins accès, c'est-à-dire les moins qualifiés, les salariés des petites et moyennes entreprises.
La précédente réforme qui n'est pas très vieille, c'est 2014.
Elle est 2014, oui. Et donc elle n'avait pas été au bout pour plein de raisons sur lesquelles on pourra revenir. Donc nous, on est effectivement d'accord pour renégocier et améliorer le système. Le problème, c'est que le projet gouvernemental qui est proposé ne va pas dans le sens d'une amélioration de l'accompagnement des personnes qui en ont plus besoin.
Il y a nécessité d'améliorer le système, Jean Vémard ?
Oui, je crois que la réforme s'impose, est nécessaire. Le système commence à vieillir, c'est la loi Delors, c'est 1971, à l'époque les besoins en formation étaient totalement différents, et tous les trois ans, soit le président de la République qui vient d'être élu, soit le Premier ministre apporte des changements, ce qui complexifie complètement le système. Et malheureusement, avec un système complexe, vous le rappeliez, peu agile, on est très mauvais. Quand on regarde le taux d'accès à la formation, c'est quand même un élément assez significatif. Hein. Sur l'ensemble de la population active de 15 à 65 ans, 36% de cette population-là a accès. Alors qu'en Allemagne, ils sont à 50, en Angleterre, ils sont à 52. Et vous rappeliez les 32 milliards, c'est 1,5% du PIB, alors qu'en Angleterre, c'est 2%, en Allemagne, c'est 2,5%, si vous voulez.
Donc vous nous donnez déjà quelques indications sur ce qui pourrait être modifié. Pour poursuivre notre tour de table, Mathilde Monod, alors, ayant présidé un rapport donc sur la question de la formation professionnelle avec quelques préconisations, j'imagine que vous considérez aussi qu'il y a des choses à réformer. Peut-être pour prolonger aussi cette question, la réformer pourquoi ? Pour plus d'efficacité, ce qui suppose aussi de réfléchir à ce que doit être l'efficacité en matière de formation professionnelle. Est-ce que c'est diminuer le chômage ? Est-ce que c'est favoriser la mobilité professionnelle ? Est-ce que c'est tout ça d'ailleurs à la fois ?
Alors chaque année, il est plus urgent de réformer la formation professionnelle parce que la mondialisation accroît la demande de compétences. Or, ça fait 20 ans que le constat est le même. La formation professionnelle est réservée aux diplômés jeunes des grandes entreprises. Et on sait bien que c'est une minorité de salariés. Et face à une mutation économique qui accroît la demande de compétences et la capacité des salariés, justement, à pouvoir changer éventuellement d'emploi, d'entreprise ou de secteur, on a une formation professionnelle qui est de plus en plus inadaptée. Donc, non seulement il faut la réformer, mais en plus de façon urgente. Et ensuite, bien évidemment, il y a la question de l'efficacité de la formation professionnelle. Et là, il y a un manque de transparence qui fait qu'aujourd'hui, on est incapable de savoir exactement qui décide des orientations de la formation professionnelle au niveau macroéconomique, sachant que les employeurs, les employés et les représentants des syndicats n'ont pas forcément les mêmes intérêts, les mêmes objectifs, et que le bénéfice social d'une formation générale qui n'est pas seulement destinée à accroître la productivité au poste de travail peut être supérieur à ce que souhaitent faire les employeurs ou les employés. Donc on a aussi un enjeu d'intérêt général qui dépasse la somme des intérêts catégoriels, et ça, c'est ce qui fait de mon point de vue qu'on a du mal et que la réforme de la formation professionnelle prend tant de temps et tant d'années.
En tout cas, s'il y a des divergences sur les modalités à suivre, il y a manifestement peut-être au moins, et ce qui est intéressant quand on débat et quand on réfléchit, une forme de consensus sur le constat. Vous qui suivez de près les négociations, Christophe Marty, est-ce que ce consensus-là sur la nécessité de réformer le système, on l'observe à l'échelle de l'ensemble des partenaires sociaux aujourd'hui?
Le consensus se fait, oui, sur la nécessité de réformer, avec tout de même un bémol qui est relativement important. C'est comme l'a dit Jean Weymar, les réformes s'empilent et s'enchaînent. On en est à la quatrième en 13 ans,
sauf erreur de ma part. Plus que ça, depuis 71.
Non, je reste juste sur les 13 dernières années, je reste raisonnable. J'étais pas né en 71.
C'est tous les 3 ans.
Voilà, et sur depuis 8 ans, donc ça va être la troisième réforme, ce qui fait qu'en fait, on change le dispositif, on change le système, on l'adapte, mais en fait, on n'évolue jamais les effets des décisions.
Alors parmi d'ailleurs les critiques qui sont formulées à l'égard du système, hein, vous en avez déjà dit un mot certains d'entre vous, c'est justement l'inégalité d'accès avec le fait que notamment ce sont les moins diplômés et les demandeurs d'emploi qui ont le plus de difficultés à accéder à l'offre de formation. Christophe Marty.
De fait, oui, c'est un constat. Pour le coup, je suis depuis moins longtemps que vous dans le paysage, on va dire, autour de ce paysage-là. Donc le constat, effectivement, c'est qu'il est difficile d'amener les moins qualifiés à la formation. Les explications avancées sont diverses et variées, mais elles peuvent être à rechercher à la fois dans l'expérience vis-à-vis de la formation initiale de l'éducation, elles peuvent être recherchées dans l'approche économique au niveau des entreprises. Aujourd'hui, en entreprise, on gère les talents. Et les talents, c'est déjà des personnes qui sont qualifiées. Donc c'est les parcours de formation, c'est vers eux qu'ils se tournent. Et derrière, il y a la gestion du chômage de masse, malgré tout, au niveau de Pôle emploi, qui complexifie aussi la gestion de l'accès à la formation.
Mais est-ce que si des personnes n'ont pas suffisamment accès à l'offre de formation, ça veut dire, par exemple, que l'offre n'est pas suffisante aujourd'hui, n'est pas suffisamment importante? Qu'est-ce que vous en pensez, Catherine Perret, et ensuite Jean Weymar?
Alors, il y a plein de raisons qui expliquent qu'il y a des inégalités. La première, c'est que un salarié d'une petite entreprise a beaucoup moins de moyens pour se former qu'un salarié d'une très grande entreprise. Ça renvoie aux questions de responsabilité sociale des entreprises. Il faut que les grandes entreprises, souvent d'ailleurs donneurs d'ordre des entreprises plus petites en sous-traitance, assument le fait que la formation, c'est un investissement, et donc qu'ils doivent mettre l'argent à disposition pour que justement les petites et moyennes entreprises puissent disposer de salariés mieux formés.
Mais il y avait une obligation de contribution pour les entreprises.
Ben, de moins en moins, puisque lors de la dernière réforme, les entreprises, et en particulier les grandes entreprises, ont obtenu une baisse de leur contribution légale. Et puis c'est ce qui est en jeu dans la négociation en ce moment, c'est justement la suppression de cette obligation légale. Or, on peut rien faire. Je vais vous donner un exemple très précis et chiffré. Un salarié d'une TPE dispose de moins de 1 500 euros pour se former. Avec 1 500 euros, on ne peut pas se former et obtenir véritablement une qualification permettant, y compris de bénéficier à l'entreprise, parce que les entreprises ont besoin de gens bien formés. D'ailleurs, dans beaucoup de branches, elles dépensent entre 3 et 6% de la masse salariale pour former leurs salariés. Et donc, il faut faire des efforts dans ce domaine-là.
Donc, ce que vous nous dites, Catherine Perret, ce n'est pas forcément l'offre globale de formation qui fait défaut, mais plutôt la volonté peut-être suffisante des entreprises d'amener leurs salariés vers cette offre, Jean Vemard.
Pas seulement des entreprises, des individus aussi. En France, il faut donner à l'individu un droit pour se former.
Parce que ce droit, il existe.
Le compte personnel de formation,
qui a été créé par, effectivement, la réforme de 2014, qui est devenue aussi une loi, mais ça touche très peu de personnes. Et vous savez pourquoi ça touche très peu de personnes? Parce qu'il n'y a quasiment pas de financement, c'est très faible. Et puis parce que ne peuvent suivre des formations que les formations qui ont été rendues éligibles, généralement des formations longues, des formations métiers, alors qu'on a besoin essentiellement de compétences transversales. Je vous donne un exemple, les formations informatiques, micro-informatiques et les formations en anglais n'était pas éligible jusqu'à encore relativement peu de temps au sein du CPF. C'est grâce du reste à la montée en force de la Fédération de la Formation Régionale qu'on les a rendus éligibles, si vous voulez. Donc il y a un hiatus entre un financement faible, d'où la nécessité, c'est la réforme, d'où la nécessité de densifier ce financement, avec probablement un rapprochement entre le CIF et le DIF, le congé individuel de formation, avec une ouverture sur la professionnalisation, mais montée de 0,2 à 0,7 ou à 0,8. Parce que si l'individu se mobilise, s'il prend conscience réellement de lui-même de la nécessité de gérer son employabilité, là, vous donnerez un boom fantastique.
C'est une responsabilité sociale de l'entreprise, monsieur, dans le Code du Travail.
Pour terminer, ce que la Fédération de la Formation Professionnelle propose, comme ça existe dans d'autres pays, c'est d'offrir aux individus un crédit d'impôt. C'est-à-dire que le coût de la formation soit déductible de ses revenus. Et ça, alors là, on dit que ça crée des dépenses supplémentaires. C'est faux, parce que la formation, ça a été largement démontré, notamment à travers le rapport Roland Berger, la formation crée de la richesse. Et ce crédit d'impôt générera à terme de la richesse et l'État sera gagnant.
Alors justement, sur cette question, disons, de la prise de conscience des individus, donc des salariés, ou des chômeurs d'ailleurs, d'avoir besoin de formation, Mathilde Lemoine, est-ce qu'on peut dire que le système est peut-être aussi un peu complexe aujourd'hui et que c'est assez compliqué d'obtenir le droit à une formation parce qu'il y a un certain nombre de démarches qu'on peut peut-être être découragé? Alors celui qui dit c'est vrai, c'est Jean Vemard. On va voir si Mathilde Lemoine dit c'est vrai également.
Oui, c'est extrêmement complexe. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est une raison macroéconomique qui incite l'employeur à former éventuellement le salarié à des compétences très spécifiques, parce que comme ça, le salarié est captif de l'entreprise. Et si les compétences du salarié deviennent obsolètes, ensuite, on peut le licencier et il y a l'assurance chômage qui prend le relais. Donc, en fait, il y a une responsabilité collective qui incite justement à l'employeur à ne pas former le salarié pour qu'il puisse être mobile. Et donc, il y a une désincitation du salarié, justement, à suivre ce genre de formation, parce qu'il y a, on va dire qu'il y a un intérêt de court terme convergent. L'autre élément important aussi, c'est simplement un aspect pratique. On sait qu'il y a beaucoup de femmes qui sont peu qualifiées, qui sont dans des situations monoparentales, et on prévoit absolument pas d'accompagnement, de garde d'enfants. Et si on considérait la formation était une priorité nationale pour justement construire l'avenir et accroître les compétitivités par le haut, on devrait penser aussi aux questions pratiques. Et pour répondre plus directement à votre question, le troisième volet qui fait que c'est un problème, c'est qu'effectivement, il n'y a pas d'endroit, un site internet par exemple, qui recense l'ensemble des formations, qui permettrait aux salariés de pouvoir, au-delà des branches et au-delà de son entreprise, rechercher des formations qui lui plairaient, qui lui permettraient justement d'accroître sa mobilité et éventuellement d'être accompagné, d'avoir son libre arbitre avec son conseiller en orientation professionnelle. Alors moi, à chaque fois que j'ai dit ça, on m'a dit que ça existait, ça n'existe pas, et il faudrait qu'il y ait un site internet, c'est très simple, qui recense l'ensemble des formations, avec des forums de groupes de pairs, comme il y a dans les pays du Nord, qui permettraient justement de pouvoir échanger sur cette capacité à être plus mobile, et les salariés pourraient les noter, ça serait déjà un premier pas.
Le paysage de la formation professionnelle en France, Christophe Marty, il est trop éclaté, notamment au niveau des structures intermédiaires. Il y a énormément de sigles quand on commence à s'intéresser à ces questions de formation. C'est vrai que quand on est totalement néophyte et qu'on veut chercher peut-être justement une offre, c'est un petit peu compliqué, même si dans les entreprises, on est censé avoir des interlocuteurs pour nous aider.
Le sujet est compliqué, il y a beaucoup de sigles, mais ça prouve que les Français sont pas si mauvais que ça en langues étrangères, en fait. Mais c'est valable d'à peu près tous les sujets. Si on parle de protection sociale, je pense que je vais vite décrocher parce que je ne comprendrai pas non plus de quoi il s'agit. La question qui se pose, c'est la question de l'intermédiation. Sur le site qui référencerait la totalité de l'offre, on peut considérer que le répertoire national des certifications et cette bibliothèque, elle est totalement...
Je ne trouve pas, moi, ce n'est pas mon point de vue.
C'est une très bonne référence. Elle est illisible.
Il n'y a pas tout.
C'est ce qui permet de reconnaître une formation, de faire de la qualification, de la classification, et donc derrière de la rémunération. C'est un phénomène qui rend attractif pour les salariés la formation que de savoir qu'on va avoir un meilleur salaire si on est mieux formé.
Après, il y a quand même quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que là, nous parlons formation continue. Mais dès qu'on parle diplôme, qualification, certification, on touche à la formation continue, on touche aussi à la formation initiale. Donc si on fait bouger un domino pour avoir une lecture, un accès facile en termes d'offres de formation professionnelle, il faut prendre en compte les impacts éventuels que ça peut avoir aussi sur la lecture de la formation en termes de formation initiale.
Sur la question justement alors de l'accès à cette formation continue, si j'ai bien lu un des objectifs donc du gouvernement, c'est de simplifier considérablement l'accès en disant en gros en quelques clics, chaque individu sera en mesure de choisir la formation qu'il veut parce qu'il aura à la fois une bonne visibilité de l'offre sur son bassin d'emploi, de l'efficacité de chacune des formations. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée-là, Catherine Perret ? Est-ce que finalement, ça n'est pas d'abord au salarié, d'abord à l'individu d'être le mieux placé pour choisir quelle est la formation dont il a besoin ?
Nous en sommes persuadés. Mais justement, il y a un très bon dispositif. Il s'appelle le congé individuel de formation. Il est plébiscité par 100 000 salariés par an. Seulement 100 000 font la demande chaque année. 50 000 seulement y ont accès parce qu'il est sous-financé, parce que les entreprises, justement, ne le financent pas assez. Or, l'intérêt de ce dispositif, c'est que justement, les gens sont accompagnés. Ils sont à l'origine de leur projet de formation, et ça c'est important. Pour avoir envie de se former, faut être en capacité de co-élaborer justement avec des professionnels son projet de formation. Il débouche sur une formation longue, 800 à 1200 heures en moyenne, ce qui veut dire une qualification. Et quand on retourne à l'entreprise, eh bien, on a une mobilité fonctionnelle, une mobilité également possible en dehors de l'entreprise. Et c'est pour ça que les gens plébiscite ce congé individuel de formation.
Mais ce que vous craignez,
évidemment,
Catherine Perret, c'est que...
Les gens, ils n'ont pas envie de se former à des petites formations qui ne débouchent pas sur une vraie évolution de carrière.
Ce que vous craignez, Catherine Perret, c'est quoi ? C'est que l'individu laissé seul face à une offre de formation ne bénéficie plus d'accompagnement et que donc ceux qui sont peut-être les moins habiles à manier les outils...
C'est très inégalitaire. Et d'ailleurs, l'ensemble des organisations qui sont autour de la table de négociation, dès la première séance, c'est-à-dire les organisations patronales et les organisations syndicales, ont dit pas de chèque formation, ça ne marche pas de laisser les gens devant un smartphone à taper sur leur truc pour faire un quiz. C'est pas ça la formation professionnelle.
C'est vrai, Jean-Bernard, c'est une vraie problématique cette question, parce que justement, individualiser le choix de la formation, ça revient aussi à dire aux individus, finalement, c'est vous qui êtes responsable de la situation dans laquelle vous êtes.
C'est normal qu'un individu gère son employabilité, quand même.
C'est la responsabilité sociale de l'entreprise, c'est dans le code du travail.
Oui, absolument, dans le cadre de son contrat de travail. Mais quand il n'est pas en entreprise, il peut gérer son employabilité. Et puis quand il est en entreprise aussi, il peut aussi gérer son employabilité. Il peut changer de job.
Le CIF,
c'est un dispositif totalement inégalitaire. Il y a 15 millions de personnes qui sont exclues en France de la formation, puisqu'il y a 36% d'accès. Et le CIF touche 50 000 personnes. Enfin, soyons sérieux. Donc, il faut réintégrer ce financement-là dans un CPF plus large. Voilà ce que nous souhaitons.
Sur la question de l'accompagnement, Mathilde Lemoine, j'ai vu qu'il y avait un dispositif qui a été créé en 2013 qui s'appelle le Conseil en évolution professionnelle. Est-ce que c'est ce genre de dispositif, alors qui manifestement n'est pas très utilisé pour l'instant, mais qui pourrait en tout cas concilier à la fois justement l'individualisation du choix et la nécessité quand même d'accompagner ceux qui, de toute manière, ont besoin d'un accompagnement.
Alors, c'est vrai que le CIF, on le voit bien dans les chiffres que vous venez de citer, n'est pas du tout à la hauteur de l'enjeu.
Bah,
donc, la question, c'est comment on fait pour que, justement, un maximum de personnes aient accès à la formation professionnelle.
Absolument.
En revanche, il ne faut pas être naïf, c'est-à-dire qu'un certain nombre de personnes n'ont pas les moyens de savoir comment se réorienter, quel type de formation, justement, parce que tout ça est extrêmement complexe. Donc, ce qui avait été proposé, c'est la mise en place d'un conseiller en orientation professionnelle. Donc là, vous pouvez vous tourner, par exemple, vers Pôle emploi ou vers l'APEC, vers un certain nombre de choses. Mais alors là, se pose la question, justement, de l'accessibilité de son conseiller en orientation professionnelle, qui est un nouveau frein, et ensuite sa formation. C'est-à-dire que ce conseiller, est-ce qu'il est, justement, est-ce qu'il connaît les évolutions, est-ce qu'il connaît les types de formations dans leur ensemble? Et nous, ce qu'on avait proposé dans le rapport Terra Nova, c'est justement qu'il y ait des formations spécifiques pour ces conseillers en orientation professionnelle. Et il me semble, alors je sais que c'est un débat, que des maisons de l'emploi, qui sont des endroits locaux, pourraient être aussi des relais intéressants, justement, pour que des salariés puissent, en dehors de l'entreprise, en dehors des lieux très formatés, se renseigner et être accompagnés à leur demande. Parce qu'il ne faut pas sous-estimer l'impact positif potentiel sur, justement, la croissance de moyen terme, l'augmentation des salaires et donc avoir une évolution de compétitivité par le haut. Donc, il ne faut pas tout de suite regarder le coût, mais améliorer l'efficacité et surtout l'accessibilité d'un accompagnement.
Christophe Marty. Oui.
Alors, juste avant de revenir sur le CEP, en plus du CEP, en 2013-2014, il y a quand même eu un autre dispositif.
Donc, je rappelle un conseil en évolution professionnelle.
Conseil en évolution professionnelle.
En orientation ensuite.
Il y a aussi eu l'entretien professionnel qui a été instauré, développé au sein de l'entreprise en termes d'accompagnement. Ça n'a pas beaucoup mieux pris que le CEP, que le conseil en évolution professionnelle qui est externe à l'entreprise. Il y a une raison assez simple, malgré tout, il faut parler du coût et du financement, à savoir que c'est une mission d'accompagnement qui est importante et qui est vitale pour accéder à la formation et surtout pour mener un projet à bien, sauf que ça s'est fait à coût constant pour les opérateurs qui étaient missionnés.
Alors je vous rappelle la question qu'on pose ce soir, hein. Qui profite l'argent de la formation professionnelle? C'est une émission, on pourrait en faire plusieurs et ce sera le cas d'ailleurs, hein, parce que c'est un petit peu compliqué de tout aborder évidemment en 40 minutes, mais on a examiné les questions d'accessibilité. Je voudrais quand même qu'on aille sur la question de la qualité de l'offre. Les prestataires en termes de formation ne manquent pas aujourd'hui. Il nous reste un peu moins de 20 minutes, Jean Weymar. Donc simplement, si vous vouliez réagir, je préfère qu'on avance un petit peu dans la discussion sur la qualité de l'offre. En tout cas, il y a une profusion d'offres. Il y a plus de 75 000 prestataires de formation. Est-ce que tous bénéficient aujourd'hui, par exemple, d'un label qui leur permet d'exercer. Jean Weymar.
Non, absolument pas. Il y a 70 000 personnes qui peuvent réaliser, qui sont agréées pour faire de la formation. Mais la plupart du temps, ces personnes-là font ça parce qu'ils ont vendu quelque chose, ils veulent accompagner la vente comme avec une formation pour maîtriser le produit.
Mais ça veut dire quoi?
Mais c'est à 7000 organismes, c'est l'activité principale.
Si je veux m'improviser formateur, je peux le faire de manière assez simple aujourd'hui?
Ah, vous n'avez même pas besoin, si vous êtes formateur, d'avoir un numéro de déclaration d'existence. Vous n'avez besoin d'avoir un numéro de déclaration d'existence pour signer un contrat de prestation de formation avec une entreprise dans le cadre d'un financement légal. Si vous voulez. Le reste, vous pouvez devenir formateur. J'ai beaucoup de formateurs qui ne sont pas certifiés, qui n'ont pas de numéro d'existence dans mon entreprise, si vous voulez, hein, mais qui sont d'excellents pédagogues, si vous voulez. C'est pas leur métier premier.
Mais comment se fait-il que ça ne soit pas davantage encadré, justement, ces métiers de la formation, qui est peut-être pas déjà, de label ou d'agrément qui soit donné?
Il y a environ 80 000 organismes de formation. La plupart ne sont pas des organismes de formation, c'est des organismes de conseil, et qui font de la formation un peu en dilettante. Et souvent, des formations bidons de très mauvaise qualité et très coûteuses. J'ai plein d'exemples, on en a sorti quelques-uns qui ont fait un peu de bruit d'ailleurs l'été dernier. Il y a par contre des organismes qui ont fait leurs preuves et qui ont été complètement laminés, alors même que ces organismes offrent à la fois une formation de qualité, adaptée aux besoins d'emploi, et un accompagnement, on vient de dire qu'il est important pour que les gens puissent se former, qu'il y ait un accompagnement en matière, par exemple, d'hébergement, de restauration. J'en prends un en exemple parce qu'il m'est cher et que je le défends. Je suis membre du conseil d'administration de l'AFPA. Mmh. C'est un organisme qui a fait ses preuves depuis 70 ans. Il y a 75% de retour à l'emploi après un passage en formation à l'AFPA. Quel autre organisme privé peut arguer d'une telle réussite?
Parce qu'il faut rappeler que l'AFPA, c'est public. Hein.
Non, c'est pas non, public, c'est la pas public. C'est un EPIC aujourd'hui.
Ah oui, c'est un EPIC, pardonnez-moi.
C'est dans le service public industriel et commercial de l'emploi, mais c'est un organisme qui est très dépendant des offres publiques d'emploi et qui donc vend à perte aujourd'hui. Vous savez, le plan, par exemple, des 500 000 qu'on a dit, ça va créer de l'émulation. Bah, ça a coûté de l'argent à l'AFPA parce que, en fait, on leur a acheté des formations moins chères que ce que ça coûte de les produire.
Sur la question de la qualité de l'offre, oui. Christophe Marty, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il y aurait quand même peut-être la nécessité de contrôler davantage les organismes de formation, sachant que quand on parle d'organismes de formation, ça peut être parfois une entreprise individuelle, hein, ça peut être quelqu'un qui fait du coaching.
Il y a des formateurs consultants indépendants qui rentrent dans les 70 000, sachant que 70 000, c'est le nombre de prestataires identifiés par l'administration. Ceux qui font le marché, c'est quoi? C'est à peu près 20 000,
15 000. Il y en a 7 000 dont l'activité principale est la formation. Et il y en a 3 000 dont le chiffre d'affaires est de 750 000 euros.
Voilà. Donc le marché de la formation est quand même beaucoup plus restreint.
Ça se réduit considérablement.
Aujourd'hui, il y a des labels ou des certifications qui permettent de présumer d'une offre de qualité, au même titre que les normes ISO sur tout un tas d'autres secteurs. Après, là aussi, ça manque peut-être un petit peu de lisibilité, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'affichage clair de ce que veulent dire ces labels et de ce qu'ils garantissent.
Mais la labellisation existe, hein. C'est même une obligation. Les organismes de formation, dans le cadre des contrats de prestation, quand ce sont des financements publics ou parapublics, doivent avoir un label.
Manifestement, ça suffit pas. Extrait du rapport de la Cour des comptes en février 2017, consacré notamment, c'était le rapport annuel, au système de formation professionnelle en France. En 2014, alors c'est la date de 2017, mais les chiffres étaient de 2014, l'administration dénombre, alors le nombre de prestataires, c'était 76 551, pour être très précis.
Ceux qui peuvent.
Mais seulement 630 ont été contrôlés par les 152 agents affectés à cette tâche, Mathilde Lemoine. On voit quand même qu'il y a un petit décalage entre le côté très pléthorique de l'offre et puis les contrôles qui sont nécessaires, parce que manifestement, ce que relève la Cour des comptes, c'est que du fait de la faiblesse des contrôles, il y a aussi un certain nombre de dérives.
Oui, quand on parle de qualité, on parle de deux choses. On parle de ce que vous dites, c'est-à-dire que comment on contrôle que pour la somme payée, il y a effectivement un service derrière qui correspond à ce qui a été négocié entre les deux parties du contrat. Et puis il y a aussi ce que le salarié en pense. On ne fait jamais appel au salarié. Le salarié pourrait très bien noter les formations qu'il a reçues.
Est-ce que souvent, il n'y a pas des petites évaluations à la fin de la
formation ?
Non,
on vous fait signer une feuille. Je ne sais pas si vous avez déjà fait une formation ici, mais on vous fait juste signer une feuille et comme ça, le formateur est content.
Il doit y avoir une feuille d'évaluation.
J'ai fait plusieurs formations obligatoires parce que justement, c'était un des sujets. On m'a juste fait signer une feuille.
Bon. Il y a des critères objectifs, de retour à l'emploi, des parcours différenciés qui permettent d'arriver jusqu'à l'objectif visé par exemple, qualification ou diplôme, il y a des critères.
Mais on pourrait demander aux salariés de noter les formations aussi. Hein, ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, n'est pas dans le champ.
Bien sûr.
Et donc, ça, c'est la première chose.
C'est-à-dire de faire comme sur TripAdvisor.
Exactement.
Oui, tout à fait.
Voilà, exactement.
Ça sert à rien, ça.
Donc, ça permet aux salariés de savoir si c'était utile ou pas. Hein. Il a son libre arbitre aussi.
Vous savez qui c'est qu'il est.
Il a le droit, justement, c'est contrôlé.
Donc,
ça, c'est la première partie de la qualité de la formation. Et quand on parle de qualité, on parle aussi d'autre chose qui est un champ plus macroéconomique qui est une formation pour quoi faire. Et donc, justement, est-ce que l'État, en tant qu'intérêt général qui n'est pas forcément, encore une fois, l'intérêt de l'entreprise, ne pourrait pas certifier un certain nombre de formations qui sont utiles pour la collectivité, qui sont utiles pour le bénéfice collectif. Je pense, par exemple, formation informatique ou formation d'apprentissage numérique, lire, écrire, enfin, j'en sais rien, et qui dépasse justement les intérêts des employés et des employeurs.
C'est-à-dire
et donc,
pas uniquement des formations tournées vers les métiers, mais aussi vers des
ou des formations tournées vers, encore une fois, la productivité au poste de travail. Parce qu'un des problèmes de la France, c'est que justement, on privilégie les formations pour accroître la productivité au poste de travail et donc c'est pas forcément cohérent avec un objectif collectif d'accroissement des compétences, de la croissance potentielle.
Christophe Marty.
Oui, sur la qualité, il y a quand même plusieurs niveaux. Là, on parle, le rapport de la Cour des comptes pointe en fait la baisse des moyens que l'État consacre au contrôle administratif de la formation professionnelle. Dans le même temps, il y a eu un transfert qui s'est fait en partie, au moins, sur les organismes paritaires collecteurs, les OPCA, qui font un contrôle de service fait sur une partie de leur financement.
Donc, avec un contrôle qui est meilleur, du coup ?
Qui existe. Après, il y a 20 OPCA dans le champ. J'ai pas été voir chez tous ce qu'ils font, très honnêtement. Donc, je pense que comme partout, il y a du bon, il y a du moins bon. Il faut pas perdre de vue aussi que les entreprises, c'est un investissement. Depuis 2014, c'est clairement affiché. La formation est un investissement. Depuis le milieu des années 2000, avec la situation économique générale, l'achat de formation a basculé des directions de ressources humaines vers les directions des achats. Les directions des achats, ce qui les intéresse, c'est le retour sur investissement. Donc, l'évaluation, la remontée des questionnaires de satisfaction à froid ou à chaud, suivant les organismes de formation, se fait aussi en interne aux entreprises. La seule chose, c'est que cette information-là reste souvent concentrée dans l'entreprise. Et pour ce qui est du TripAdvisor de la formation, notamment la région Île-de-France est en train de le mettre en place, où je crois qu'ils l'ont mis en ligne là le mois dernier. Mais c'est dans l'air du temps, c'est en train de se faire.
Ça n'avait pas l'air de rencontrer vos faveurs, Catherine Perret, cette idée.
Non, c'est pas sérieux. Enfin, on sait tous que c'est pas par TripAdvisor qu'on va pouvoir évaluer réellement la qualité de la formation professionnelle. Ce qui se pose comme
question... Qui est le mieux placé pour évaluer justement la qualité de l'offre de formation professionnelle? C'est une autorité indépendante? Sont les partenaires sociaux qui...
On parle de choses très différentes d'abord. Il y a des responsabilités qui incombent à l'État, parce que madame, quand vous parlez de lire, apprendre à lire, compter, on peut, en dehors des personnes qui sont basculées en situation d'illettrisme au cours de leur vie professionnelle, parce qu'ils font un emploi qui ne leur permet pas d'accéder à la formation professionnelle. En général, il y a l'éducation nationale en amont de l'entrée sur le marché
là,
du travail.
Là, on parle de la période où ils sont en emploi.
Quand on parle
de formation continue.
Justement, ça plaide pour qu'on ait accès à des formations qui permettent une reconversion longue, une adaptation aux évolutions, aux mutations technologiques. Et donc, qu'on fasse pas de l'adaptation au poste. Ça, c'est réel dans la formation professionnelle continue. Un des critères qui permet réellement de répondre à cette question de labellisation, c'est la question de la prise en compte du parcours de la personne. La personne, elle part d'un point A, elle va arriver à un point B. Toute personne est différente. Elle a un bagage, elle a une situation. Une personne, c'est pas seulement un stagiaire de formation, c'est une personne en entier. Et donc, la capacité d'un organisme de formation à prendre cette personne et à l'amener jusqu'à son objectif, par exemple, de qualification, en tenant compte de sa particularité, c'est-à-dire en construisant un parcours de formation adapté de qualité. Et ça, monsieur, ça s'appelle du service public.
Mais vous m'avez pas répondu, justement, alors Catherine Perret, justement, sur l'évaluation de la qualité de l'offre, ça doit être quelque chose qui relève du service public?
La capacité à amener une personne tout au long de sa vie à mener un parcours de formation, c'est du service public, c'est de la responsabilité, effectivement, d'un service public.
Jean-Vemar, vous proposez la création d'une agence indépendante qui labelliserait les entreprises de formation. Ça veut dire quoi, une agence indépendante? Non, d'abord, indépendante
avant,
de quoi
avant,
ou de qui?
Je crois qu'il est important, c'est de repréciser les critères et les moyens d'évaluation. Les deux structures qui sont capables d'évaluer, c'est la personne qui a reçu, finalement, l'information, et le donneur d'ordre. Et quand le donneur d'ordre est privé, comme c'est le cas maintenant de façon majoritaire, puisqu'il n'y a plus d'obligation fiscale pour les entreprises de plus de 300 personnes, donc c'est l'entreprise elle-même qui gère l'évolution de son capital humain, qui, je vous le rappelle, est sa première richesse. Donc elle a tout intérêt, effectivement, quand elle investit dans son capital humain, première richesse, de réaliser le résultat avec des outils. Et nous, de plus en plus, au sein des organismes de formation, on met en place des outils donc d'évaluation. L'agence qualité. L'agence qualité, on prône une agence effectivement indépendante par des experts, et c'est eux qui pourront apprécier, non pas en fonction finalement des groupes de pression, essentiellement des experts totalement indépendants qui pourront labelliser le professionnalisme de l'organisme de formation.
Ça n'existe pas ça, c'est forcément indépendant, ça veut dire économique.
Indépendant.
Économique, ça veut dire une entrée économique.
Ce sont des,
moi,
comme ça existe en Allemagne.
Des experts indépendants.
Ça veut dire quoi? Indépendant de l'État, indépendant des entreprises.
Indépendant de l'État, indépendant des partenaires sociaux, indépendant des entreprises. Objectif, qui juge de façon objective.
Des extraterrestres, non?
Vous en pensez quoi, Mathilde Delamoine?
Non, ça existe déjà dans beaucoup d'autres pays. Donc,
Alors, moi, je reste sur ma position, qui est que je pense que les salariés ont leur mot à dire, parce que si, par exemple, on vous propose une formation et que vous allez sur le site de cet opérateur et que les précédents salariés qui ont suivi cette formation ont considéré que c'était ça n'avait pas de sens, qu'ils ont perdu leur temps, ça crée quand même une incitation pour améliorer, non pas selon des critères objectifs, mais aussi améliorer le sens, l'efficacité. Parce qu'il y a deux choses, c'est pas parce que les directeurs d'achat vont regarder les coûts que la formation va être utile pour les salariés, ou en tout cas que ils vont ressentir que c'est utile. Donc oui, je crois que là-dessus, il y a quelque chose de qualitatif qui est très important.
Ça peut être une évaluation, disons, complémentaire, mais qui n'est pas forcément
utile. Voilà, mais je voulais repréciser mon point, parce qu'il a été un peu caricaturé. Et mon deuxième point, c'est que, en tant que macroéconomiste, il me semble qu'il y a des objectifs en termes de qualité qui dépassent les intérêts de branches, d'entreprises et de salariés, et que l'État doit certifier un certain nombre de formations parce que justement elles répondent à un objectif d'intérêt collectif qui dépasse des intérêts privés, particuliers, catégoriels, tout ce que vous voulez.
Métiers rares et émergents, par exemple.
Il me semble, après, moi, c'est pas mon champ hein, sur les autres, mais voilà, mon analyse macroéconomique me permet de vous proposer ces deux conclusion.
Christophe Marty, est-ce que la tendance aujourd'hui, elle est plutôt justement dans la question à la fois de l'offre de formation et dans la question du contrôle, de réduire peut-être la place de l'État, l'intervention publique ?
C'est le sens de l'histoire. Après savoir quelles sont les intentions, puisqu'effectivement pendant la campagne présidentielle, la question d'une éventuelle agence, je ne me rappelle pas si c'est le terme qui avait été utilisé, agence indépendante ou nationale sur la qualité, avait été avancée, mais sans qu'on sache si elle se situait dans le giron de l'État ou à l'extérieur. La question a été mise sur la table des négociations vendredi dernier. Et à l'exception du MEDEF, a priori, la totalité des autres organisations se sont exprimées contre cette hypothèse-là.
Et pourquoi est-ce que le MEDEF est pour et pourquoi est-ce que les autres organisations sont contre ? C'est quoi ? C'est contre une quoi ? Une libéralisation du secteur ?
Contre une efficacité du secteur.
Catherine Perret ?
Par exemple, les plus virulents autour de la table de négociation contre cette agence indépendante, soi-disant indépendante, c'est l'organisation patronale CPME et l'organisation U2P, c'est-à-dire les petites et moyennes entreprises. Parce qu'ils ont bien compris qu'avec ce type d'agence, il y a un désengagement total des grandes entreprises et que leurs salariés n'auraient plus accès à la formation et qu'en fait, ça allait nuire au dynamisme économique du pays. Je rappelle quand même que ce sont les petites et les moyennes entreprises dans ce pays qui créent l'emploi. Il ne faut pas les oublier.
Jean Venard ?
Oui, c'est vrai. Mais je pense que le marché est libre, le marché de la formation est libre et la création d'une agence indépendante objectivera réellement le problème de la qualité. On ne sera plus un élément d'un groupe de pression particulier pour privilégier un contenu, une formation métier.
Je suis formateur, je lance mon entreprise de formation.
Ah, et si c'est une entreprise de formation, vous devez avoir un numéro d'existence.
Et je veux rejoindre votre fédération, Jean Venard, la Fédération de la formation professionnelle.
Oui,
quels sont les critères que vous allez me demander pour que je puisse en faire partie ?
Notamment votre engagement à bénéficier d'une labellisation en termes de qualité. C'est indispensable dans les statuts.
Ça veut dire que je peux ne pas l'avoir, ce
et
label,
là, à ce moment-là, vous ne pourrez
en
plus,
entrant
vous
chez
ne pourrez
vous,
plus être membre de la fédération. Absolument. Vous vous engagez dans une démarche qualité. Ça, c'est statutaire chez nous.
Et si je ne respecte pas cet engagement,
à ce moment-là, vous quitterez la Fédération de la formation professionnelle.
Mais ça ne vous empêchera pas d'avoir des marchés publics quand même, hein, et donc de rendre de mauvais services.
Mathilde Demoine, pour conclure.
La Caisse des dépôts joue un rôle important justement dans l'établissement du compte personnel de formation. On pourrait imaginer que l'État justement certifie un certain nombre de formations pour aussi aider les salariés qui n'auront pas été suffisamment bien conseillés par un conseiller en orientation professionnelle à s'orienter. Je veux dire, c'est pas forcément ça s'oppose pas à un marché libre de la formation, mais je crois que c'est important qu'une autorité publique, en l'occurrence l'État, de mon point de vue, puisse donner des lignes directrices en matière de formation.
Et on voit en tout cas qu'il y a énormément de sujets de discussion pour les prochaines séances de négociation autour de cette réforme de la formation professionnelle. Catherine Perret, vous évoquiez tout à l'heure l'AFPA. J'ai sous les yeux là, une dépêche qui est tombée il y a quelques minutes à propos de l'intersyndicale de l'AFPA qui s'est mobilisée aujourd'hui pour dénoncer la spirale régressive, je cite, dans laquelle est engagé le premier organisme français de formation professionnelle. intersyndicale qui estime que cet organisme n'a plus les moyens de remplir ses missions. Voilà, merci à tous les quatre d'avoir participé à la discussion. Donc Mathilde Lemoine, Catherine Perret, Jean Vemard et Christophe Marty. Discussion que vous pouvez réécouter sur notre site franceculture.fr à la page du Grain à Moudre. Merci à toute l'équipe du Grain, Virginie Leduo, Antoine Tricot, Fanny Riché, Antoine Dulcer et Eva Pellerin. Émission réalisée par Véronique Villa avec à la prise de son Inès De Bruyne. Arnaud Laporte, présent. La dispute, c'est dans 3 minutes.
3 minutes, on va parler de danse ce soir avec l'Opéra de Paris, avec Maggie Marin, avec Dorothée Mounienza. Riche programme dans du Grain à Moudre demain, Hervé.
Ville Sainte, une malédiction politique, ce sera la question de demain soir.
Pas simple.